L'Éden de Seth en numéro 57A. Questions et réponses des ministres d'Afrique francophone. Le 17 juillet 2022, soir communion. Brian Kozurek, pasteur. Ce soir, nous poursuivrons avec les questions et réponses des ministres de l'étranger. Ce matin, nous avons répondu aux questions des ministres de trois pays. Et ce soir, nous, Néhémie, répondrons à d'autres questions qu'à celles des ministres de l'Afrique francophone. Question numéro 1, que sommes-nous censés faire en tant que ministres fidèlement enseignés pour garder une saine doctrine parmi nous, alors que le monde entre de plus en plus dans l'apostasie? Réponse numéro 1, le monde, Néhémie, ne devrait rien avoir à faire avec le fait que vous gardiez ou pas une saine doctrine. Nous, Néhémie, sommes pas du monde et nous n'y prêtons pas attention. Nous focalisons toute notre attention sur ce que Christ, selon sa parole et son message, Esther censé faire en ce moment. Matthieu 24.3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ta parousia, présence et de la fin du monde? La première chose dont Jésus nous a solennellement prévenu lorsque la même question lui fut posée, Esther d'avertir les gens de la séduction. 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne n'ait mis vous séduise. 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est Esther moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Nous vivons, sur terre, l'époque le plus trompeur de toutes les époques, parce que la séduction provient de toutes les facettes de la vie. Nous devons faire face à une fausse économie, à de faux politiciens qui n'y servent pas le peuple, mais servent un agenda mondialiste inspiré par le Vatican. Et le système éducatif promeut le malaki, le sodomisme et un comportement et une connaissance antichrist. Toutes les nouvelles sont de fausses nouvelles au point où vous vous faites vraiment du tort en écoutant leur fausse propagande. Et maintenant, notre médecine n'est motivée que par un faux agenda où 90% de toutes les procédures médicales en usage dans les cabinets médicaux et les hôpitaux n'émis sont même pas indispensables. D'après un article que le FR Peter m'a envoyé lundi dernier, plus de 90% de toutes les procédures médicales n'ont pas de preuves pour soutenir leur usage. Un autre racket. Une nouvelle méta-analyse publiée dans le Journal of Clinical Epidemiology, revue d'épidémiologie clinique, note du TRAD, révèle qu'il n'existe aucune preuve irréfutable pour soutenir l'usage de la plupart des procédures médicales modernes ainsi que des produits pharmaceutiques utilisés dans les hôpitaux aujourd'hui. Selon les résultats de cette analyse, presque chaque aspect du système médical est un racket, une fraude. Donc, ce n'est pas exclusivement les protocoles inhumains du coronavirus de Wuhan, Covid-19, et les soi-disant vaccins qui ont desservi le monde. Presque toutes les procédures pharmaceutiques approuvées depuis 2008 comportent plus de risques que de bénéfices. Jusqu'à 94% des procédures médicales n'ont pas de preuves pour soutenir leur usage. La méta-analyse révèle que 94% des procédures médicales manquent de preuves pour soutenir leur usage. Eh bien, c'est criminel. Mais nous sommes entrés dans une tyrannie du monde médical et de l'OMS. Question numéro 2, l'OTAN et l'Union Européenne maintiennent toujours la pression sur la Russie, qui a désormais à ses côtés la Chine, l'Inde et la Corée du Nord comme partenaires. N'est-ce pas là l'annonce de la septième vision, alors que la pression atteint son paroxysme? Les écritures, les citations et les faits seront les bienvenus. Réponse numéro 2, si vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'y sera pas encore la fin. C'est une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers lieux, des famines, et des épidémies, des fléaux et des tremblements de terre. 8. Tout cela n'est mis sera que le commencement des douleurs. Question numéro 3. Il semble que ce que le monde vient de traverser au cours des deux dernières années, la guerre bactériologique et les pseudo-traitements médicaux qui ont juste favorisé davantage de morts, et il semble que les gens ont déjà oublié tout cela. Que pensez-vous que le diable cache derrière ce temps de silence? Nous savions que la pression pour vacciner était censée entraîner la persécution. Alors qu'en pensez-vous? Comment les choses fonctionnent actuellement? Réponse numéro 3. J'enseigne depuis des années à quoi s'attendre dans les derniers jours. Et j'ai même prêché un sermon il y a 21 ans. Le 21 octobre 2001. Dans ma série sur qui Esther sous Melchizedek. Où j'ai averti les gens de ce que j'ai appelé le processus d'endurcissement. Où les fléaux viennent un par un. Mais il y aura un espace de temps entre chaque fléau pour que les gens oublient. Mais avec chaque fléau viendra un endurcissement de leur cœur de même que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Dans le sermon de frère Branham, la guérison divine 19 décembre 54 mètres 49. Il a clairement expliqué comment Dieu a utilisé chacune des plaies pour endurcir le cœur de Pharaon vis-à-vis de Dieu. Il a dit, 133 Dieu a dit, j'endurcis qui j'endurcirai. Je fais miséricorde à qui je ferai miséricorde. C'est vrai. Il a dit, avant qu'Ésaü ou Jacob, l'un ou l'autre Néhémie soit né. Néhémie sachant ni le bien ni le mal à qui. Dieu a dit, j'aime Jacob et je hais Ésaü. Et Ésaü a essayé d'être en ordre avec Dieu et n'a pas pu. Pharaon a essayé d'être en ordre avec Dieu et n'a pas pu. Donc, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas ce que vous voulez. C'est ce que Dieu vous a destiné à faire. C'est juste. 134 Paul a dit au 9e chapitre Romain là-bas, le potier n'est stérile pas maître de l'argile pour en faire un vase d'honneur ou un vase de déshonneur. Pour montrer sa gloire à ceux qu'il a honoré. Vous n'aimez le saviez pas. N'est-ce pas? C'est ce que dit l'Écriture. 135 Pharaon a fait de son mieux pour se repentir. Il avait bon cœur. Il a dit, certainement. Je vais vous laisser partir. Partez donc. Dieu a dit, 136 non. Je vais endurcir son cœur pour que vous Néhémie puissiez pas partir. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. 137 Et si nous vivons ce jour où le formalisme et ses choses ont brisé l'Église, qu'elle s'estère effondrée? Pourquoi? C'est-à-dire la parole de Dieu qui s'accomplit. L'apôtre Paul Esther, celui qui nous a le premier enseigné cette compréhension de la façon dont Dieu endurcit ceux qui Néhémie sont pas prédestinés à la gloire. Ceux-ci sont prédestinés à la condamnation. Romains 9.18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. C'est donc quelque chose de nécessaire. Les gens ont déjà le coup suffisamment raide. Alors Dieu sait juste comment leur donner un petit coup de pouce, pour les rendre tellement durs qu'ils n'aiment ni peuvent rien faire d'autre, que de se briser. Tout comme lorsque vous travaillez le métal à la chaleur. Vous le chauffez et il sera molli. Mais refroidissez-le et il devient plus dur plus qu'avant. Vous Néhémie pouvez répéter ce processus que 4 fois environ alors il se fragilise et vous pouvez le briser à volonté. Et c'est très scripturaire. Nous lisons dans Proverbe 29.1 un homme qui mérite d'être repris, et qui redit le coup, sera brisé subitement et sans remède. Proverbe 28.14 Heureux l'homme qui esterre continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Proverbe 21.29 Le méchant durcit son visage. Mais l'homme droit, Dieu dirige sa voix. Remarquez que le méchant s'endurcit. Mais l'homme droit prend la correction et il esterre conduit par le Saint-Esprit. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Psaume 37.24 S'il tombe, il n'estère pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Psaume 37.17 Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Ici encore, nous voyons le parallélisme des Écritures où il y a la bénédiction et la malédiction, la justice et l'injustice, la lumière et l'obscurité, la vie et la mort, etc. Et comme Frère Vell nous l'a enseigné, en tant qu'élu de Dieu, quand vous lisez dans la parole de Dieu une malédiction, cherchez immédiatement la bénédiction, et n'aimez revendiquez jamais la malédiction, mais toujours la bénédiction. Voyez-vous, au cours de l'année suivante, avant d'être pris hors d'ici, nous devons rester concentrés sur les promesses bénies de Dieu, car nous étions en lui avant les fondations du monde, pour recevoir les bénédictions et non les malédictions. Le ministère doit donc se concentrer sur les jumeaux et montrer les deux vignes et ce qui est en réserve pour chaque vigne. Cela gardera les gens équilibrés alors que nous voyons de plus en plus de fléaux aller et venir. Nous savons ce qui s'en vient. Et nous ne devrions pas être surpris parce que le prophète de Dieu et sa parole nous ont déjà averti quant à quoi nous attendre. Alors, nous gardons un œil sur la promesse comme Abraham a dû le faire avant nous. Après tout, n'est-il pas le père de notre foi? Question numéro 4, sans être légaliste, allons-nous garder, parmi nous, des frères qui ont volontairement reçu ce vaccin, pour de l'emploi ou quelques avantages sociaux? Pouvons-nous considérer une telle attitude comme un compromis avec la vérité? Après avoir écouté les différents avertissements de Dieu sur la question, 2 Jean 1.10 Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, Néhémie le recevez pas dans votre maison, et Néhémie lui dites pas, salut. Réponse numéro 4, non. 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 Néhémie maltraitait pas les gens, parce qu'ils ont fait une erreur. Nous faisons tous des erreurs. Mais si une personne fait volontairement des choses contre lesquelles Dieu nous a mis en garde, alors elle devra en subir les conséquences. Rappelez-vous, en tant que sa postérité, nous sommes destinés à devenir ce que la parole dit de nous. Mais dans cette vie, si vous semez, vous récolterez également. Mais quant à faire ce que les gouvernements exigent pour entrer dans leur pays, eh bien, je n'y crois pas que nous devrions y entrer s'il vous oblige à détruire votre propre génétique. Il arrive un jour où les hommes seront tenus de prendre la marque de la bête et si vous n'y la prenez pas, alors vous n'y pourrez pas fonctionner dans la société. Donc, ce qui se passe n'est qu'une préfiguration de ce qui va arriver. Rappelez-vous qu'il y a quelque chose à propos de la marque de la bête qui vous identifie au système de la bête. Se pourrait-il que votre ADN soit modifié? Est-ce de cela qu'il s'agit? N'oubliez jamais que Frère Branham l'a juste placé sur le fait qu'il rejette la parole et que c'est ainsi qu'il reçoive la marque. Mais j'ai averti certains frères qui voulaient voyager dans des pays qui ont certaines exigences, que s'ils se rendent dans ces endroits, ils seront tenus de suivre les procédures médicales requises pour entrer dans ces pays. Je suis simplement reconnaissant que le Saint-Esprit m'a averti en 2019 de ce qui allait arriver en 2020 et j'étais conscient de ces choses quand elles sont arrivées pour la première fois, parce que je m'attendais à ce qu'elles se produisent. Maintenant, je pense qu'il est intéressant d'apprendre qu'Israël vient de fermer ses frontières à toutes les personnes qui ont été totalement inoculées contre la guerre bactériologique actuelle qui a été imposée au monde. Donc, si l'establishment médical d'un pays refuse désormais de permettre à tous ceux qui ont suivi les conseils de leur gouvernement d'obtenir l'inoculation, à ceux qui ont été vaccinés d'entrer dans leur pays, qu'est-ce que cela nous apprend? Le Royaume-Uni rapporte maintenant que les incidences les plus élevées de la maladie sont parmi ceux qui ont été traités contre elle. Et l'Union européenne constate la même chose. Les pays qui se sont conformés aux diktats de l'OMS ont maintenant le taux d'infection le plus élevé. Faites donc attention à la personne que vous permettez d'entrer dans votre présence et avec qui vous partagez votre espace. Question numéro 5. Est-ce stérile, prudent et sage de faire des voyages missionnaires pendant ce temps de pression mondiale, alors que nous sommes contraints de suivre les protocoles sanitaires de notre gouvernement ou des choses pareilles? Réponse numéro 5. Comme je viens de le dire, le Saint-Esprit m'a dit que je n'ai mis voyagerai plus à l'étranger pour l'œuvre missionnaire, et il me l'a dit juste 3 mois avant le début de la guerre bactériologique. On peut toujours utiliser la technologie, et je pense que nous avons des meilleures réunions sur l'Internet qu'en personne, parce que vous, frères, avez plus d'accès aux uns aux autres que vous en aviez auparavant. Si vous en avez l'occasion, écoutez ou lisez mon sermon dans la série des paraboles sur la parabole du filet et vous comprendrez. J'observe cela depuis 21 ans et j'ai enseigné ces sermons sur les paraboles à l'époque, parce que j'ai lu où frère Branham a dit, tous les Nouveaux Testaments parlent de 7 heures. Shalom 19 janvier 64 p. 92223 et tout le Nouveau Testament parle de 7 heures. Jésus-Christ parle de 7 heures. Qui est-ce alors? Un homme? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui se manifeste, reflétant la lumière sur la parole qu'il a promise pour ce jour. Question numéro 6. Combien de temps pensez-vous qu'il nous reste encore avant la fin de cet âge? Dans votre série Poussée à bout numéro 47 La Résurrection 4, le temps et la saison entre la 45e et 47e minute de ce sermon, vous y avez déclaré, si la résurrection a une voix, nous devons être prêts à entendre cette voix. Alors qu'entendez-vous exactement par être prêt à entendre cette voix? Vous avez dit, dans le même sermon, de remonter dans l'histoire et de découvrir le jour exact où Jésus a ressuscité. L'avez-vous fait? Parce qu'il est certainement important de connaître ce jour? Réponse numéro 6. Très bien. Alors laissez-moi d'abord répondre à la dernière partie. Oui. Il est assez bien établi que Jésus est mort à 15h le troisième jour du mois d'avril en l'an 33 après Jacques. Maintenant, il est intéressant qu'il y ait ici 4, 3 et avril est le quatrième mois. Je n'en connais pas l'importance. Mais je suis sûr qu'il a été prédéterminé que ce soit cette date. 4x3 égale 12. Dont 1 plus 2 font 3. Et avril, c'est 4. Donc 3 plus 4 font 7, ce qui est l'achèvement. C'est mon calcul. Donc si quelqu'un sait mieux, veuillez me le faire savoir. En outre, les chercheurs croient qu'ils peuvent déterminer la date du grand tremblement de terre tel que rapporté dans le livre de Matthieu, qui révèle également la date. Par conséquent, Jésus, tel que décrit dans le Nouveau Testament, a très probablement été crucifié le vendredi 3 avril de l'an 33, d'après les géologues. Ils fondent leurs conclusions sur l'examen de l'activité sismique. Matthieu 27.45 Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 46 Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dire, il appelle Élie. 48 Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. 49 Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. 50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. 52 Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, Ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent un grand nombre de personnes. 54 Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Maintenant, voici d'autres faits qui soutiennent cette date et cette heure. Les quatre évangiles attestent dans les annales, 15. 44 s'accorde à dire que la crucifixion eut lieu lorsque Ponce Pilate était procureur de Judée de l'an 26 à 36 après Jacques. Les quatre évangiles disent que la crucifixion eut lieu un vendredi. Les quatre évangiles s'accordent à dire que Jésus était mort quelques heures avant le début du sabbat juif, à la tombée de la nuit du vendredi. Matthieu, Marc et Luc indiquent que Jésus était mort avant la tombée de la nuit le 14e jour de Nisan, juste avant le début du repas de la Pâque. Trois des quatre évangiles relatent en outre les ténèbres de midi à 15 heures après la crucifixion. Matthieu, Marc et Luc rapportent chacun que Jésus était mort vers la 9e heure, Matthieu 27.45-50, Marc 15.34-37, Luc 23.44-46. La 9e heure est ce que nous appellerions aujourd'hui 15 heures. Cela nous permet de réduire le moment de la mort de Jésus à un point très spécifique de l'histoire. Vers 15 heures le vendredi 3 avril 33 après Jacques. Quant à la première partie de la question, combien de temps pensez-vous qu'il nous reste encore avant la fin de cet âge? Eh bien, si je connaissais le jour et l'heure, je devrais être Dieu, parce que Jésus a dit que personne n'est mis connaissait ni le jour ni l'heure. Cependant, il n'a jamais dit que nous n'est mis connaîtrons pas la saison, et nous comprenons que Jésus fut le premier à parler de la parousia de Christ, puis Paul, puis Pierre, puis Jacques et Jean. Ainsi, nous pouvons examiner ce qu'ils nous ont annoncé de la parousia présence, qui est l'apparition avant la venue comme William Branham l'a enseigné. Et en tenant compte de chaque signe et événement que Jésus et ses apôtres ont écrit, il existe 84 signes et événements mentionnés dans les Écritures dont a parlé en premier Jésus, puis Paul, Pierre, Jacques et enfin Jean qui doivent avoir lieu lors de la parousia de Christ. Nous découvrons également qu'il y a trois saisons dans ce grand événement appelé la parousia de Christ, où la grande présence de Dieu descend, et l'apôtre Paul nous parle de trois événements spécifiques qui nous font passer par la saison du cri, entrer dans la saison plus courte de 6 semaines de la voie de la résurrection, et enfin passer par la saison la plus courte de la trompette de Dieu, qui sera le rassemblement des saints vivants et de ceux ressuscités pour être enlevés ensemble et pris hors d'ici. Cela signifie que le cri est la saison la plus longue dans la parousia de Christ, et puis les choses s'accélèrent vraiment au point où la voie de la résurrection sera de 40 jours environ, et la trompette encore moins. Pour les besoins de cette session, nous n'avons pas le temps de nous concentrer sur tous ces signes et événements, mais vous pouvez aller consulter ma série sur la foi et surtout la foi numéro 39, qui traite des 84 signes et événements. Sinon, les 5 événements qui restent parlent tous de la résurrection, la voie et de la réunion sous la tente, dans laquelle nous serons non seulement témoins de la résurrection des saints, mais aussi du changement de notre corps, comme nous le voyons dans Genèse 18, lorsque Dieu a changé le corps de Sarah alors qu'elle était dans la tente, et a ramené Abraham et Sarah au temps de la vie, qui est entre 18 et 20 ans. Je crois aussi que l'union spirituelle de l'épouse à Christ sera pleinement consommée dans la tente comme avec Isaac et Rebecca. Matthieu 24. 1. V. 3. La question fut posée, quels seront les signes de ta parousia? 2. V. 4. Prenez garde que personne n'ait mis vous séduise. Grande séduction. Fausse nouvelle. Fausse théologie. Fausse économie. 3. V. 5. Les faux oints. 4. V. 6. Des guerres et des bruits de guerre. 5. V. 7 nations contre nations, 6. V. 7 royaumes contre royaumes, 7. V. 7 des famines, 8. V. 7 des épidémies, 9. V. 7 augmentations des tremblements de terre dans de nombreux endroits, 10. V. 8 débuts des douleurs, 11. V. 9 arrestations des chrétiens, 12. V. 9 afflictions des chrétiens, 13. V. 9 haines des chrétiens par toutes les nations, 14. V. 10 de nombreuses pierres d'achoppement ou occasions de chute, 15. V. 10 beaucoup trahiront, 16. V. 10 beaucoup haïront, 17. V. 11 beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens, 18. V. 12 en raison de l'accroissement de l'iniquité, l'amour de beaucoup se refroidira, 19. V. 13 il y aura un groupe ordonné qui persévérera et sera sauvé, 20. V. 14 l'évangile prêché dans toutes les nations, Internet rend cela possible. 190 pays accèdent à notre site web et je crois que le Branham.org en fait autant. 21. V. 22 à cause des élus. Dieu abrégera les jours sinon aucune chair n'est mise sera sauvée. Les destructions nucléaires. Tchernobyl. Fukushima. Chantraille, traînée chimique blanche laissée dans l'air par des avions. L'empoisonnement de l'eau. L'hybridation des aliments. La guerre bactériologique. L'empoisonnement aux radiations de la 5G dans tous les pays. Etc. 22. V. 21 La tribulation, toujours dans le futur, mais nous serons déjà partis et ne le manquerons. 23. V. 24 L'émergence de faux Christ, les faux oints. 24. V. 24 L'apparition des faux prophètes, des faux docteurs. 25. V. 24 La grande séduction, de sorte que seuls les élus n'émis seront pas séduits. 26. V. 26 Prétention des uns dans le désert. 27. V. 26 Prétention de Christ dans l'entrepôt. Néhémie le croyait pas. 28. V. 27 La présence sera universelle. Comme l'éclair qui éclaire d'Esther en ouest. Ainsi sera la présence. 29. V. 28 Il y aura de la manne fraîche, la parole pour la saison. 30. V. 28 Les aigles s'uniront à la parole fraîche pour la saison. 31. V. 30 Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel avec ses anges dans les nuées avec puissance et une grande gloire. 32. V. 31 Il envoie ses anges avec la trompette retentissante de l'évangile. 33. V. 31 Les élus sont rassemblés des quatre vents, coins, de la terre. 34. V. 34 La génération qui verra ces choses se réaliser sera la dernière génération. 35. V. 37 Comme au jour de Noé ainsi en sera-t-il à la parousia du Fils de l'homme en son temps. 36. V. 38 Manger. Boire. Se marier et donner en mariage, de sorte que la vie continue pareillement pour tout. 37. V. 39 Il Néhémie savait pas que la parousia du Fils de l'homme était ici et que les jugements devaient suivre. 38. V. 40 La séparation, deux dans un champ. L'un sera pris. L'autre sera laissé. 39. V. 42 Églises moudront le blé. Examinant les détails de la parole. L'une sera prise. L'autre sera laissée. 40. V. 43 Les braves hommes veilleront, seront conscients de l'heure, s'attendront à ces événements. 41. V. 44 Or il nous estère commandé d'être prêts, car à l'heure où nous n'y penserons pas, le Fils de l'homme viendra. 42. V. 45 Les serviteurs fidèles et prudents donneront de la nourriture spirituelle, pour la saison dans laquelle ils se trouvent. 43. V. 46 Les serviteurs qui nourrissent de la nourriture spirituelle au temps convenable sont bénis lors de cette parousia de Christ. 44 V. 47 Il sera béni en recevant sa position de fils, l'adoption. 45 V. 48 Il y aura d'autres conducteurs spirituels qui n'y seront pas conscients de la présence du Seigneur. 46 V. 48 Ces ministres deviendront injurieux et maltraiteront leurs collègues ministres. 47 V. 49 La présence du Seigneur viendra quand ils n'y penseront point. 48 V. 50 La présence du Seigneur sera cachée aux soi-disant, croyant qu'ils n'y seront pas conscients de la présence du Juge suprême. 49 V. 51 Au lieu de l'adoption, de l'héritage et du placement en tant que fils, ils sont placés comme hypocrites, faux croyants et de simples acteurs de théâtre. 50 V. 51 Ils resteront pour la tribulation. La communion d'hymne 4 février 62-74 Nous voyons que les astronomes prédisent au début ou dans la première partie du mois, à partir du 2 ou du 5 ou quelque part au cours de ce mois, les astronomes indiens prédisent que le monde va voler en éclats. Et les journaux américains s'en moquent. Je n'y crois pas que le monde va voler en éclats, mais j'affirme que c'est Esther Malachi de s'en moquer. En effet, quelque chose Esther sur le point d'arriver un de ces jours, quelque chose de semblable, quand les cinq planètes, Mars, Jupiter est venu, et ainsi de suite entreront dans leur leur. Elles n'y l'ont jamais fait. Oh! Les gens prétendent que cela Esther peut être arrivé il y a 25 000 ans. Mais qui était là pour le savoir? Exposé des sept âges de l'Église. L'âge de l'Église de Philadelphie. Page 299. 299-16 à cet âge que Jésus dit, je viens bientôt, verset 11. Le dernier âge Esther donc très court. Laodicée Esther l'âge de l'œuvre rapide. Un âge abrégé. Exposé des sept âges de l'Église. Résumé des âges de l'Église. Page 374-1374-2 Cinquième âge ayant largement propagé la parole au moyen de l'imprimerie. Le sixième âge eut en fait de tirer profit de cet état de choses. Ce fut la seconde étape de la restauration. L'âge de l'aigrette. Comme nous l'avons dit plus haut. L'instruction florissait. C'était l'âge d'homme intellectuel, qui aimait Dieu et le servait. Les missionnaires étaient nombreux, et la parole se répandait dans le monde entier. C'était l'âge de l'amour fraternel. C'était l'âge de la porte ouverte. C'était le dernier âge long. Et après lui viendrait l'âge de Laodicée qui serait court. Exposé des sept âges de l'Église. L'âge de l'Église de Laodicée. Page 323 Le messager 323-1 Je doute fort qu'aucun âge ait véritablement reconnu le messager que Dieu lui avait envoyé, à l'exception du premier âge dont Paul était le messager. Et même dans cet âge-là, beaucoup n'y l'ont pas reconnu pour ce qu'il était. 323-2 Or, l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Les événements vont se produire très rapidement. Ainsi, le messager pour cet âge de Laodicée doit être déjà là, bien que peut-être nous ne le connaissions pas encore. Mais certainement, il y aura un temps où il se fera connaître. Or, tout cela, je peux le prouver, parce que nous avons les Écritures qui décrivent son ministère. Exposé des sept âges de l'Église. L'âge de l'Église de Philadelphie. Page 318. Les dernières exhortations de C.E.T., âge 318-2 Apocalypse 3.13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chaque âge se termine par cette même exhortation. C'est-à-dire l'exhortation constante aux églises, pour qu'elles écoutent la voix du Seigneur. Dans cet âge, L'exhortation Esther est encore plus pressante que dans les âges précédents. Car dans cet âge, la venue du Seigneur devient vraiment imminente. On pourrait se poser cette question, s'il y a un autre âge après celui-ci? Pourquoi cette urgence? Voici la réponse, le dernier âge sera court, une œuvre rapide de consommation. Non seulement il en sera ainsi, mais n'oublions jamais qu'aux yeux de Dieu, le temps est quelque chose de tellement fugace. En effet, 1000 ans sont comme un jour. Et s'il vient dans quelques heures, selon sa vision du temps, alors bien sûr, il doit nous avertir en toute urgence, et sa voix doit résonner sans répit dans nos cœurs, afin que nous soyons prêts pour sa venue. Exposé des 7 âges de l'Église. L'âge de l'Église de Philadelphie. Page 298. 298-3 de manière à comprendre toute la richesse du sens qu'implique cette déclaration, voici. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne n'ait mis peut fermer. Nous devons nous rappeler ce qu'on a dit que chaque âge déborde dans un autre âge. Il y a un chevauchement, une fusion ou une passation, plutôt qu'une fin abrupte et un début net. Cet âge particulièrement se déverse simplement dans le dernier âge, mais à bien des égards, on peut dire que le dernier âge n'est qu'une continuation du 6e âge. Le 7e âge a un âge très court, rassemble en lui-même, pour une action rapide, tout le mal acquis de chaque âge, mais toute la réalité de la Pentecôte. Cependant, une fois que l'âge de Philadelphie a presque fini sa course, l'âge de l'Odyssée vient rapidement amenant à la fois l'ivraie et le blé à la moisson, arracher d'abord l'ivraie, et lier la en gerbe pour la brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. Matthieu 13.30. N'oubliez pas que l'âge de Sardes est marqué le début de la réforme, qui doit encore se poursuivre jusqu'à ce que le grain planté à la Pentecôte ait accompli le cycle complet d'être planté, arrosé, nourri, etc., jusqu'à ce qu'il revienne directement au grain d'origine. Pendant que cela se passe, l'ivraie qui a été semée devra passer par son cycle ainsi que d'être récolté. C'est exactement ce que nous voyons se produire. Si vous pouvez juste penser au cycle des saisons, vous aurez une très bonne image de cela. La plante que vous avez vue croître dans toute sa force en été soumet tout à coup à monter en grain. On n'est émis peut pas dire à quel moment exact l'automne a pris la place de l'été, il s'est simplement fondu dedans. S'est ainsi que sont les âges, et surtout les deux derniers. Exposé des 7 âges de l'Église. L'âge de l'Église de l'Odyssée. Page 361. La fin des âges des nations. 361-3. Cet âge Esther, le dernier des 7 âges de l'Église. Ce qui a commencé au premier âge ou à l'âge des Fesdois et arrivera à sa pleine réalisation et à sa récolte dans le dernier âge ou l'âge de l'Odyssée. Les deux vignes donneront leur fruit final. Les deux esprits termineront leur manifestation dans chacune de leurs destinations finales. Le semis, l'arrosage, la croissance sont terminés. L'été Esther terminé. La faucille Esther maintenant entrée dans la moisson. L'âge des fêtes était l'âge le plus court des 6 premiers âges, 77 ans en tout. Mais frère Branham dit que ce dernier âge, l'âge de l'Odyssée, sera abrégé et sera plus court que les autres âges. Ensuite, si l'Odyssée a commencé le 9 avril 1906, lorsque le Saint-Esprit Esther tombait sur la rue Azusa, le 9 avril 2023 commencera alors les 117 ans, ce qui n'aimait la rendra pas la plus courte, mais la même que l'âge d'Éphèse. Donc, je crois, d'après ce qu'il a dit, que nous vivons dans la dernière année avant le retour à la maison. Aussi, si vous vous souvenez en mai, lorsque j'ai répondu aux questions des frères de l'étranger, j'ai montré qu'Adam et Esther mort en l'an 930 après la création, et Enoch Esther montés dans le premier enlèvement en l'an 987. Maintenant, si vous considérez qu'Adam était le premier des pères, et 57 ans après avoir quitté la scène, Enoch Esther montés dans un enlèvement. Considérez également que William Branham, qui était le dernier des pères spirituels, Esther montée en décembre 1965. Si le modèle reste vrai, alors décembre 2022 fera également 57 ans depuis que le dernier des pères Esther endormi. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais tout semble pointer à une disparition prochaine des élus de la Terre. N'oublions pas non plus de considérer que la semaine dernière, 5 planètes se sont alignées, et si nous entendons ce que Frère Branham a dit à propos de ce phénomène, nous devons également tenir compte. La communion d'hymne 04.02.62.74. Nous voyons que les astronomes prédisent au début ou dans la première partie du mois, à partir du 2 ou du 5 ou quelque part au cours de ce mois, les astronomes indiens prédisent que le monde va voler en éclats. Et les journaux américains s'en moquent. Je n'y crois pas que le monde va voler en éclats, mais j'affirme que c'est Esther Malachi de s'en moquer. En effet, quelque chose Esther sur le point d'arriver un de ces jours, quelque chose de semblable, quand les 5 planètes, Mars, Jupiter est venu, et ainsi de suite entreront dans leur l'heure. Ennemi l'ont jamais fait. Oh! Les gens prétendent que cela Esther peut être arrivé il y a 25 000 ans. Mais qui était là pour le savoir? 5 planètes s'aligneront en juin, quand et voir ces signes spectaculaires, le ciel nous offre un spectacle rare et époustouflant ce mois-ci. Car un défilé planétaire de 5 planètes sera visible en juin 2022. Le défilé des planètes comprendra Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, le tout dans cet ordre. Ils seront visibles dans tout le ciel du plus bas à l'Esther au plus haut dans le sud, Genèse 24.67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. Nous voyons aussi que Esther quand Sarah, l'épouse d'Abraham, était dans l'attente que la promesse d'un changement de corps lui a été faite. Genèse 18.9. Alors ils lui dirent, « Où Esther Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle Esther là, dans l'attente. » Dix l'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi selon le temps de la vie. » Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. 11 Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah Néhémie pouvait plus espérer avoir des enfants, son utérus avait séché. 12 Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi Esther vieux. 13 L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, Esther, ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille? 14 Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé je reviendrai vers toi. Selon le temps de la vie. Version Roi Jacques. Note du Trad. Et Sarah aura un fils. Au moment fixé, je te ramènerai au temps de la vie. 16-20 ans Esther le temps de la vie, la fleur de l'âge. La fête des trompettes 19 juillet 64 mètres 1 p. 41 76 Mais celui qui Esther restait et a parlé à Abraham, qu'Abraham a appelé Elohim, le Tout-Puissant, Genèse 1, Dieu. Au commencement, Dieu, Elohim, le Tout-Suffisant, qui se suffit à lui-même, Abraham l'a appelé Elohim et il s'était assis à manger avec Abraham. Il a bu. Il était dans la chair humaine. Et regardez le signe qu'il donne à Abraham. 77 maintenant, ils attendaient la venue d'un fils. Un fils promis, Isaac. 25 ans, au cours d'un long voyage, ils l'avaient attendu, mais ils étaient à la fin du voyage. Dieu était apparu sous de nombreuses formes, comme il l'a fait à travers les âges de l'Église, et des lumières, et ainsi de suite, comme il parlait à Abraham, et par des voix. Mais juste avant la venue du Fils, maintenant, nous sommes passés par là, et vous savez que je n'ai mis fait que répéter pour vous faire comprendre cela, qu'il a changé le corps d'Abraham et de Sarah, immédiatement après cela, afin qu'ils puissent recevoir le Fils. Remarquez, le dernier signe qu'ils ont eu avant l'arrivée du Fils, c'était Jéhovah qui leur parlait sous la forme d'un homme. Et comment ils savaient que c'était Jéhovah? Parce qu'il a dit, Abraham, pas Abraham. Quelques jours auparavant, Dieu avait changé de nom. Ou Esther ta femme Sarah, pas Esaïra. Mais Esaïrach, princesse. Et Abraham dit, elle Esther dans la tente derrière toi. 78 Et il a dit, je, c'est Esther un pronom personnel. Je vous rendrai visite selon ma promesse au moment de la vie. Les 28 prochains jours, quelque chose va arriver à Sarah. 79 Et Sarah, dans la tente, sourit en elle-même et dit dans son cœur, comment cela pourrait-il être? Voyant que je suis vieux, et que j'ai du plaisir avec mon Seigneur, qui est Esther aussi vieux, Abraham. 80 L'ange ou l'homme dit, pourquoi Sarah a-t-elle dit cela dans son cœur, dans la tente derrière lui? Pourquoi a-t-elle dit que ces choses n'émis peuvent pas être? Vous voyez? Un homme dans une chair humaine comme un prophète? Mais c'était Elohim, discernant la pensée qui était dans le cœur de Sarah derrière lui. La fête des tabernacles Esther aussi appelée la fête des tentes. Ou la fête de la tente. Demeure future 64-0802p, 210453 donc vieil homme et vieille femme. Néhémie vous découragez pas. Si vous êtes une représentation ici dans cet attribut de Dieu, il est Esther Dieu. Si vous êtes représenté ici, vous Néhémie pouvez pas, vous êtes dans l'éternité. Et si vous passez de ce septième jour au huitième, vous êtes entré dans l'éternité par le baptême du Saint-Esprit, vous êtes inclus dans cela. Maintenant, si vous faites simplement confiance à une sensation, ou si vous sautez de haut en bas, ou si vous dites, je fais ceci, j'observe un septième jour, je Néhémie mange pas de viande. Et des choses comme ça, ça va périr chez les élus. Vous voyez? Mais c'est Esther l'éternité. C'est Esther l'éternité. Là, fête après la fête des tabernacles. Vous voyez? 454 La fête des tabernacles était la dernière fête, la septième fête. Nous adorons maintenant sous la fête des tabernacles, le septième âge de l'Église. P. 211455 Dans le millénium, nous serons de nouveau sous la fête des tabernacles au septième jour. 456 Mais après le septième jour, nous avons une sainte convocation, retourner dans l'éternité. Comment? Par l'Éternel qui est Esther venu et nous a rachetés et nous a repris. Nous permettons de reconnaître que nous faisions partie de cela. 457 Maintenant, comment savez-vous que vous en faites partie? Parce que c'est Esther la parole de l'heure, la promesse du jour. Qu'est-ce que c'est Esther? Un retour au premier jour, le premier. Et il rétablira le cœur des enfants au Père, apportant à nouveau un rétablissement de l'authentique Pentecôte, pas des sensations, et manifestera la lumière du soir, le même soleil qui s'estère montré dans la lumière du matin. S'estère la promesse du jour. Amen. Amen. Où sommes-nous, mes amis? Où sommes-nous? J'attends juste maintenant de sortir du chemin en sorte qu'Apocalypse 11 puisse être porté à la connaissance des Juifs. C'est vrai? L'enlèvement arrive. Demeure future 64-0802p, 103212 vous dites, eh bien? Maintenant? Frère Branham? Vous les avez épuisés. Vous avez vos 7. Très bien. Prenons la dernière fête, qui était la fête des tabernacles. Maintenant, remarquez, ici au 36e verset. 7 jours. Vous offrirez des holocaustes à l'Éternel, le 8e jour. Le 8e jour, il y aura une sainte convocation. Il y a un autre temps saint qui vient. Sainte convocation pour vous. Et vous offrirez un holocauste à l'Éternel, et c'est-à-dire une assemblée solennelle, et vous n'y ferez aucun travail servile. Maintenant, nous avons eu un 8e jour. Maintenant, il n'y a que 7 jours, mais ici nous parlons de la sainte conversation du 8e jour, ou combinaison. Remarquez, n'y travaillez pas. Les 8e jours sont quoi? Le retour au premier jour. Pourquoi? Cela parle d'éternité, alors qu'elle tourne sans s'arrêter. Amen. Le voyez-vous? 104 remarqué, c'était aussi en ce 8e jour, dernier jour, jour de fête du tabernacle, remarqué, après cela, après le dernier jour de fête, après le dernier âge de l'Église, après les 7 derniers jours complets sur la terre, après le millénium que cette sainte convocation vient. Rappelez-vous que c'est-à-dire la fin des tabernacles, des lieux de rassemblement. Amen. Car dans le millénium, la Bible a dit, ils construiront des maisons, ils y habiteront. Mais dans la nouvelle terre, il est déjà allé préparer l'endroit, c'est-à-dire construit. Nous n'avons rien à voir avec ces constructions. Amen. Éternel. Oh, j'adore cette parole. Oh là là, une sainte convocation, le 8e jour, dont il n'y a que 7 jours, puis le 8e jour, qui revient au premier jour, revient directement au premier jour, le 8e jour est-ce une sainte convocation. C'est-ce à la fête des tabernacles, des tentes, que le Messie devait se faire connaître au peuple. Mais quand Jésus était ici la première fois, il n'est pas fait connaître ouvertement, parce que ce n'était pas encore son heure de le faire. Cela n'est viendrait pas avant 2000 ans. Jean 7.2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Trois et ses frères lui dirent, « Pars d'ici, et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Quatre personnes agissent en secret, lorsqu'ils désirent paraître, « Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Cinq car ses frères non plus Néhémie croyaient pas en lui. Six Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. C'est le monde Néhémie peut voir. Moi, il me hait. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Huit montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Neuf après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. 10 lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. 11 les Juifs le cherchaient pendant la fête, et disaient, « Où est-il ? » 12 il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns, disaient, « C'est un homme de bien. » D'autres disaient, « Non, il égare la multitude. » 13 personnes, toutefois, Néhémie parlait librement de lui, par crainte des Juifs. 14 Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. 15 Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? 16 Jésus leur répondit, ma doctrine n'est-elle pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. 17 Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est-elle de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Zacharie 14.16 Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. 17 S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. 18 Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie, dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. 19 Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas, pour célébrer la fête des tabernacles. Deutéronome 16.13 Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir. Deutéronome 31.7 Moïse appela Josué, et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et s'estère toi qui les en mettras en possession. 8 L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne craint point, et ne t'effraie point. 9 Moïse écrivit cette loi, et il la remit au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. 10 Moïse leur donna cet ordre, à la fin de tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche. À la fête des tabernacles, 11 quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence. 12 Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent, et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. 13 Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession, après avoir passé le Jourdain. Ainsi, vous voyez que la fête des tabernacles, c'est-à-dire la fête des tentes, où les gens viendront du monde entier à la fin de la période de 7 ans et se rassembleront pour entendre la parole du Seigneur. Où? À la fête des tentes. Lévitique 23h34 parle aux enfants d'Israël en disant, le 15e jour de ce 7e mois sera la fête des tabernacles pendant 7 jours pour l'Éternel. Lévitique 23.34 parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois. Ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. 41 Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel, pendant 7 jours. C'est-à-dire une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. 42 Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. 43 Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. 44 S'estère ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Enfin, permettez-moi de dire ceci. La première réunion de frères Branham a eu lieu sous une tente, et sa dernière réunion aura également lieu sous une tente. Le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué 15 mai 60 soir p. 71 Je me souviens m'être tenu debout. Frère Collins, il y a une 30 ans, quand cette église n'était pas encore construite. C'était une petite tente de réunion ici au coin de la rue. Ma première réunion. Je prêchais ce même évangile. La même chose. Les richesses insondables de Christ. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Croyant que chaque parole était la vérité. Le baptême du Saint-Esprit. La guérison divine. Les puissances de Dieu. Tout comme je le prêche maintenant. Je n'ai jamais varié d'un pouce de tout cela. Dieu m'en a révélé davantage. Alors qu'il le révèle, je continue de les porter. Il n'enlève jamais ce qui était. Il continue simplement à en ajouter davantage. Jéhovah Jireh 24 février 56 p. 50 Quand nous aurons notre grande tente ici quelque part, nous prendrons beaucoup de temps et parcourrons entre les lignes. Regardez la chose de la résurrection comment elle se déplace là-dedans, juste magnifiquement. Il vous suffit d'être amoureux de lui et il vous le révélera. Et puis, j'ai remarqué que, vous savez ce que Dieu a fait à Abraham et Sarah là-bas? Je vais vous dire ce qu'il a fait. Espace vide sur la bande, NDLR. Il les a retournés en un jeune homme et en une jeune femme à nouveau. Oh! Dites-vous, frère Branham, c'est ridicule. Mais il l'a fait. Il les a retournés en un jeune homme et en une jeune femme. Il a fait. Persévère en 29 juillet 62 p. 20 Je crois en un Dieu qui nous ressuscitera dans les derniers jours. Oui monsieur. Oh! Comme j'aimerais vous parler de cela pendant un moment cet après-midi. Mettez simplement votre foi sur cette résurrection. Et voyez cette grande image qui s'y trouve. Comme c'est beau. Comment les vieux redeviennent jeunes. Et comment Dieu a fait une promesse, et l'a confirmée à travers Sarah et Abraham, de les retourner tous les deux en un jeune homme et en une jeune femme. Et montrer ce qu'il va faire à toute leur postérité après eux. Et donc, oh, c'est beau. Et un de ces jours, si Dieu le veut, et si cela ne vous dérange pas, et que vous voulez, et que vous me laissez revenir. J'aimerais revenir sur l'île, installer une tente quelque part et rester 4 ou 5 semaines ou quelque chose comme ça, afin que nous puissions avoir beaucoup de temps. Alors, la congrégation applaudit NDLR. Merci. Merci beaucoup. Cela me fait me sentir le bienvenu. Et je ferai tout. Question numéro 7. 2 Timothée 3.10 pour toi. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, selon les Écritures ci-dessus. Pourriez-vous partager avec nous votre expérience, le frère Livel, et son ministère, ayant agi comme votre mentor, ainsi que le frère Villard Collins, même si c'était pour une courte période, avant qu'il n'ait mis rentre à la maison, ainsi que l'aide que vous recevez de temps en temps en partageant avec le frère Billy Paul Branham. Psaume, il n'y a pas d'isme ou d'esprit fanatique derrière cette question, mais juste pour aider les ministres à apprendre comment être encadré ou influencé par quelqu'un de plus expérimenté, ce qui a été scripturairement prouvé d'un bout à l'autre de la Bible. Tel qu'écrit dans Hébreux 13.7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. Réponse numéro 7. J'ai rencontré Frère Bell pour la première fois l'été 1976. Quelques jours avant mon entrée au camp d'entraînement des Vikings du Minnesota. Je me souviens de la nuit où nous nous sommes rencontrés et où il a prêché du lundi au mercredi soir au sujet du ministère du Saint-Esprit incarné dans la chair humaine en ce jour, qui estère le langage de la présence. Quoi qu'il en soit, nous sommes allés manger cette nuit-là, et le Saint-Esprit m'a dit cette première nuit de venir sous le ministère de cet homme. Je n'ai découvert que 3 ans plus tard, que le Saint-Esprit lui avait parlé en disant, un jour, ce jeune homme signifiera quelque chose de spécial pour ton ministère. 3 ans plus tard, il n'estère pas opportun que j'inclue ces années-là dans le ministère, mais en 1979. J'ai rencontré Frère Vell à nouveau lors des réunions de Jeffersonville, dans l'Indiana. J'ai frappé à sa porte, et quand il l'a ouverte, la première chose qu'il a dite fut, « Isaïe, tu ce jeune homme, qui jouait au football ?» Et j'ai dit « Oui, mais j'ai abandonné. » Et il a dit, « Eh bien, cette nuit-là, quand nous nous sommes rencontrés, le Saint-Esprit m'a dit, un jour ce jeune homme signifiera quelque chose de spécial pour ton ministère. Et depuis ce jour-là, partout où je vais prêcher, je dis aux gens qu'il y a un jeune joueur de football pour lequel je veux que vous priez. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il signifierait un jour quelque chose de spécial pour mon ministère. C'est ainsi que nous sommes entrés en contact et sommes restés en contact. Au début, à cause de la distance, environ 12 heures de route, nous sommes restés en contact au moins une fois par semaine par téléphone, et la plupart du temps tous les jours. La même année, en 1979, j'ai pu faire un voyage d'affaires à Dayton, dans l'Ohio à environ 30 miles de Sheffer. Vell, alors il est venu me chercher à l'aéroport et m'a emmené rester dans son appartement à Covington, dans l'Ohio. J'ai passé le week-end avec lui et sa femme Allison. C'était le véritable début de son mentorat, et il a continué ainsi pendant les 33 années suivantes alors que je déménageais près de Dayton, dans l'état de l'Ohio. Plus tard en 1981, j'ai pu trouver un emploi à Bloomington dans l'Indiana qui m'a placé à moins de 4 heures de route de chez lui. De cette façon, je pouvais assister au service du week-end avec lui et aller à son église. C'est ce que nous avons fait en grande partie en 1981 et puis en 1982. C'est par son intermédiaire que mon église a commencé car il y avait des croyants qui lui ont demandé de venir à Cincinnati pour leur parler de F.R. Branham. Il m'a invité à voyager avec lui et nous avons parlé de Frère Branham pendant 3 semaines d'affilée. Puis il a dit, « Très bien. Mon fils prend le relais à partir d'ici. » C'était le début de Grace Fellowship Tabernacle où je suis pasteur depuis mars 1982. Comme j'habitais environ 1 heure au sud de FR, Vell est à environ 1 heure au nord de mon église, j'ai pu monter régulièrement le voir. Nous avons parlé de la parole et prié ensemble et même chanté des cantiques autour de sa table de cuisine, un peu comme Luther l'a fait avec les frères qui le visitaient à son époque. Je n'ai pas le nombre exact d'heures que nous avons passées ensemble. Je crois que c'était quelque part entre 4000 et 5000 heures. C'était beaucoup de temps en termes de mentorat. Nous avons donc beaucoup discuté de la doctrine de la parousia et de la divinité, et de divers points doctrinaux, comme l'alpha et l'oméga, les jumeaux, etc. En 1982, une semaine avant son décès, j'ai également pu parler à Sœur Meda Branham, où je me suis renseigné sur la relation entre F.R. Branham et F.R. Vell, établissant une perspective de première main de cette relation. Après le décès de Frère Vell, j'avais toujours envie de ce même genre de relation avec un aîné, alors j'ai contacté F.R. Collins avec qui j'ai eu plusieurs conversations qui remontent à 1979. Nous commencions à nous réunir une fois par semaine. Je descendais chez lui et nous passions la journée ensemble et sortions déjeuner. Nous avons également une merveilleuse amitié. J'ai beaucoup appris de lui concernant la vie de frère Branham et de ses interactions avec les ministres. Certaines choses que j'ai entendues étaient choquantes à apprendre. Mais nous laisserons cela pour l'instant. Quant au frère Billy Paul, je l'ai rencontré pour la première fois en 1976 à Keston dans le Dakota du Sud lors d'une réunion de camp. Je suis resté en contact avec lui dès lors, et chaque fois que j'avais besoin de savoir comment frère Branham faisait certaines choses dans son église ou les conseils qu'il donnait aux gens, je l'appelais et nous en parlions. J'ai également beaucoup appris de Fr. Billy Paul. Question numéro 8. À 48 minutes de votre sermon sur Christ Esther, le mystère de Dieu révélé numéro 13, la maturité chrétienne, vous avez parlé brièvement des enfants, des fils et des héritiers. Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer davantage ces trois concepts vis-à-vis des Écritures et des citations? Réponse numéro 8. Je pense qu'il faudra réserver toute une séance à cette seule question, puisqu'elle implique l'adoption et le placement de fils. Cependant, dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul utilise le terme adoption, enfant ou fils, ainsi que les héritiers et l'héritage environ 5 fois, ainsi que dans Romains 8 et Galates 4. Ci-dessous, j'ai posté un article de la Jovich Encyclopédia, l'encyclopédie juive. Je vais juste lire les parties en surbrillance pour gagner du temps, mais nous publierons ensuite un article entier dans le cadre de cette étude, et nous pourrons l'utiliser à des fins éducatives. Héritage, Iorusba. Nala, par Joseph Jacob. Julius H. Greenstone, parmi les premiers Hébreux, ainsi que parmi beaucoup d'autres nations de l'Antiquité. La coutume décidait que c'était le plus proche parent qui devait entrer en possession de la succession d'une personne décédée. Le fils aîné assumait généralement la direction de la famille et succéda au contrôle des biens de la famille, voire primogéniture. Lorsqu'il n'y avait pas de fils, le mourant nommait un ami de confiance comme héritier, parfois à l'exclusion d'un proche parent. Ainsi, Abraham, lorsqu'il désespérait d'avoir lui-même des enfants, était sur le point de nommer son esclave Eliezer comme son héritier, bien que son neveu Lot fût en vie, Genèse 15. 3. Même lorsqu'il y avait des enfants, le père avait le droit de préférer un enfant à un autre, dans la disposition de ses biens. Sarah, Néhémie souhaitant pas qu'Ismaël partage l'héritage avec son fils Isaac, persuada Abraham de chasser Agar ainsi que son fils de sa maison, Genèse 21. 10. Et Abraham renvoya plus tard ses enfants qu'il a eus de ses concubines, avec des présents, afin qu'ils n'interfèrent pas dans l'héritage d'Isaac, Genèse 25. 6. Quant à Jacob, cependant, il s'avère qu'une Néhémie fit aucune distinction entre les fils de ses femmes et ceux de ses concubines, Genèse. Xlix. Et inclut ses petits-fils Ephraïm et Manassé parmi ses héritiers, Genèse. Xlvi. 5. 6. Il Néhémie pouvait y avoir de doute à l'époque qu'une veuve hérite de son mari, car elle était considérée comme faisant partie des biens qui passaient aux héritiers. Comme le montrent les histoires de Ruth, Absalom, 2 Sam. 16. 21. 22. Adonijah et Abisag, Iroi 2. 22. Voir, mariage Lévira. Il Néhémie pouvait pas non plus y avoir de doute sur les filles qui héritent de leur père, puisque les filles étaient données en mariage soit par leur père, soit par leur frère ou d'autres parents après la mort du père, devenant ainsi la propriété de la famille dans laquelle elles se sont mariées, voire filles dans la loi juive. Un cas exceptionnel, Esther mentionnée, Job a donné à ses filles une part égale de sa succession à celle de leur frère, Job Xli. 15. Cas de Zelophehad. À la suite de la question soulevée par les filles de Zelophehad, Moïse établit les règles générales suivantes de l'héritage. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Num. 27. 8-11. Aussi brève que cette loi soit, elle laisse suffisamment de latitude pour une interprétation légitime par l'expression au plus proche dans sa famille. Selon cette disposition, il y a 4 degrés de succession héréditaire, celui du fils, de la fille, du frère et du frère du père. Dans le cas de la fille, il est indiqué que lorsqu'elle deviendra l'héritière de la succession de son père, elle se mariera dans son propre clan. Num. 36. 6. 7. Cette restriction a ensuite été abrogée par les rabbins, Tahan. 30b. B. B. 120a. Sur le droit du premier-né à une double part de l'héritage, Deutéronome. 21. 17. Voire primogéniture. 15. Si un homme, qui a 2 femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, ces il n'est mis pour à point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est certes le premier-né. 17. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils Esther les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. 18. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et n'aimant leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. 19. Le père et la mère le prendront, et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. 20. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. 21. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal acquis du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. En droit rabbinique, conformément aux principes selon lesquels celui qui vient en premier dans l'ordre de succession héréditaire transmet ce droit à ses descendants, et que le père précède tous ses descendants en succession héréditaire, B. 115a, les rabbins ont élaboré les dispositions incomplètes de la Bible et établi l'ordre suivant des héritiers légaux, 1. Les fils et leurs descendants, 2 degrés les filles et leurs descendants, 3 degrés le père, 4 degrés les frères et leurs descendants, 5 degrés les sœurs et leurs descendants, 6 degrés le père du père, 7 degrés les frères du père et leurs descendants, 8 degrés les sœurs du père et leurs descendants, 9 le père du père du père, et ainsi de suite. Maïmonide, Yad, Nalo, I, 1-3, Shulan, Aruk, Osen Mishpa, 276. 1. À cette liste, qu'il considérait comme implicite dans les passages bibliques, les rabbins ajoutèrent un autre héritier légal, le mari, dont le droit et l'héritage des biens de sa femme étaient déduits du terme égal parent, B. 111b. Exception. Chacun des fils du défunt reçoit une part égale de la succession de son père ou de sa mère, à l'exception du premier-né du père, qui reçoit une double part, voire primogéniture. Un fils né après la mort de son père, Yeb. 67a, ou né de lien illégitime, Mamzer. Ib. 22b, Esther également un héritier légal de la succession de son père, mais le fils né d'un esclave ou d'une non-juive Esther exclue, Ib. Nalo, I. 7. Comp. 4. 6. Osen Mishpa, 276. 6. Comp. Ib. 279. 6. Ebe'r'abagugola. Adlock. Un juif apostat Néhémie ne perd pas son droit d'héritage, bien que le tribunal, s'il le juge opportun, puisse le priver de sa part, quid. 18 à Nalo 6 12 Osen Mishpa 283 2 Lorsque les lois d'un État non-juif privent un prosélyte du droit d'héritage, le tribunal juif peut faire de même avec un apostat, comp. Responsable John Mizraim Arabe, éditeur, Müller, Berlin, 1888. Paragraphe 11. Et Weiss, Dor, 4. 117, 129. Et note. En cas de décès d'un fils au cours de la vie de son père, ses enfants héritent de sa part de la succession. Si l'un des fils meurt avant sa mère et Néhémie ne laisse pas d'enfant, ses frères du même père mais pas de la même mère n'héritent pas de la succession de sa mère en raison de son droit à celle-ci. Mais s'il vit Néhémie, serait-ce qu'une heure après la mort de sa mère, il devient son héritier et, à sa mort, ses frères, en tant qu'héritiers, héritent de sa part de la succession de sa mère, B. B. 114 B. Nalo. I. 13. Osen Mishpa. 276. 5. Là où il n'y a ni fils ni enfant de fils, les filles et leurs descendants deviennent les héritiers légitimes. Les Sadducéens soutenaient que la fille partageait l'héritage alors qu'il n'y avait qu'une fille d'un fils vivant, mais Johanan B. Zakkai et les autres pharisiens décidèrent que le fils et tous ses descendants, homme ou femme, devait précéder la fille dans le droit d'héritage, B. B. 115 B. Comp. Tosef. Yad. 2. 9. Meg. Tahan. 5. Parmi les Karaïtes, les filles reçoivent toujours une part égale avec leurs frères dans la succession de leur père, Furst. Jesh. Des Karaïtes. Partie. Paragraphe 9. Et note. Comp. Achab. 116 B. Les rabbins, tout en refusant aux filles une part de l'héritage là où il y a des fils, prennent encore amplement de disposition pour leur entretien et leur soutien tant qu'elles restent célibataires, voire filles. Ketuba. Lorsqu'il n'y a pas d'héritier dans la ligne descendante, le bien esther transmis aux parents le plus proche dans la ligne ascendante. Bien que le père Néhémie soit pas mentionné dans la Bible parmi les héritiers légaux, les rabbins n'ont pas hésité à le faire précéder les frères du défunt, mentionnés comme les prochains héritiers en l'absence de fils ou de filles. Philon de Vitamoisi, 3. 32 a donné comme raison de cette omission que ce sera un mauvais présage pour le père et la mère de recevoir un gain de l'affliction inconsolable de la perte d'enfants mourant prématurément. Mais il a indirectement laissé entendre leur droit d'être invité à un tel héritage lorsqu'il l'a concédé aux oncles, comp. B. B. 108 B. Commentaire de Namani Danum. 27. 8. La mère du défunt et ses frères de la même mère sont exclus de la ligne de succession héréditaire, sur le principe que la famille Esther fondée sur le lien de parenté avec le père et non sur celui avec la mère, B. B. 108 B. Mari et femme. Le mari hérite de sa femme, mais la femme n'hérite pas de son mari. Des dispositions sont toutefois prises pour subvenir à ses besoins tant qu'elle n'est Miss Esther pas, R.E., mariée, voire mari et femme. Ketuba. Le droit d'héritage du mari Néhémie s'étend qu'au bien qui appartenait effectivement à sa femme au moment de son décès, voire dot, mais pas au bien qui lui serait échu si elle avait vécu, comme, par exemple, un héritage attendu d'un parent qui, cependant, lui a survécu, ou une dette qui n'a pas été garantie par un gage ou par une hypothèque, B. B. 125 B. Nalo. I. 11. Emagid Mishne, Adlok, Shulan, Aruk, Ebanabakuk, Ezer. 90. 1. Comme dans le cas de six fils décédés avant sa mort, le mari qui meurt avant sa femme n'est-il pas considéré comme son héritier dans la mesure où il transmet sa succession à ses proches? B. B. 114b. Voir Rajbam Eto. Adlok. Nalo. I. 12. Un homme n'hérite pas de son fiancé, Arusa. Yeb. 29b. Plus tard, les autorités ont également pris des dispositions contre l'héritage des biens de sa femme au cas où elle mourrait sans enfant peu après le mariage, voire dot. Le mari n'hérite pas de sa femme si son mariage avec elle était illégal et portait la peine d'excision, carré. Mais si la punition en cause n'était que des raillures. Comme dans le cas d'un prêtre épousant une femme divorcée, il ne perd pas son droit d'héritage sur sa succession, Tosef. Yeb. 2. 3. Le mari Esther aussi l'héritier de sa femme aposta, Eben Abakuk, Ezer. 90. 3. Glose. Osen Mishpa. 283. 2. Glose. Relation Lévira. Le Yabam, voire mariage Lévira, qui accomplissait son devoir en épousant la veuve d'un frère mort sans enfant, devint l'unique héritier de la succession de son frère. Mais Néhémi recevait pas la part de son frère dans la succession de leur père, à moins que le père Néhémi décède avant le frère Yeb. 40a. Car son droit d'héritage Néhémi s'étendait qu'au bien qui appartenait effectivement à son frère au moment de sa mort, et non au bien dans l'espérance, Bec. 52a. Si, cependant, il n'épousait pas la veuve de son frère, mais suivait l'alternative d'effectuer la cérémonie de Alisa, il n'avait pas droit à l'héritage de son frère, mais prenait une part égale à celle de ses autres frères. Plus tard, par une institution établie dans diverses communautés juives pour inciter l'un des frères à libérer la veuve de son état incertain, les biens du frère décédé ont été divisés en deux parties égales, une partie étant donnée à la veuve et l'autre au Yabam qui a subi la cérémonie de Alisa. Il existe de nombreuses divergences d'opinion concernant les détails liés à cette institution, et il est conseillé au tribunal, qui doit traiter une telle affaire d'arbitrer entre les parties en litige, Eben Abakuk, Ezer. 165. 5. Gloss. Mardochayeb. 4. 23. Responsa de Meir de Lublin. Paragraphe 11. Lorsque la veuve Esther décédait, avant que l'un des frères de son mari décédé, Néhémie l'a épousée ou soumise à la cérémonie de Alisa, les héritiers de son mari décédé ont hérité du montant qui lui était dû par sa ketuba, contrat de mariage et de la moitié de la dot qui lui avait été donnée au mariage par son père ou ses héritiers, Nixon Barzel. Voir dot. Tandis que le reste de ses biens allait à sa famille, Ket. 80a. Nalo. 3. 9. Eben Abakuk, Ezer. 160. 7. Comp. Nissim Jorondi. Responsa. Paragraphe 46. 54. Une simple présomption suffit pour établir l'identité d'un héritier, voire Azaka. Si deux témoins témoignent qu'un homme Esther connu comme le fils du défunt, bien qu'une Néhémie puisse pas retracer la généalogie de la famille, l'homme ainsi connu Esther considéré comme l'héritier légal, Nalo. 4. 7. Osen Mishpa. 280. 1. Si, toutefois, le défunt a déclaré avant le décès que le demandeur n'était pas son fils, ce dernier, bien que la présomption soit en sa faveur, Néhémie peut pas réclamer une partie de l'héritage. Le témoignage du défunt n'est valable que lorsqu'il concerne un fils, mais pas lorsqu'il concerne un frère ou un autre parent. B. B. 134a. D'autre part, l'identité du défunt et la preuve positive de son décès par deux témoins légaux doivent être établies avant que les héritiers Néhémie soient autorisés à entrer dans sa succession. B. Monsieur 38B. 39A. Nalo. 7. 4-10. Osen Mishpa. 285. Voir fiducie et fiduciaire. Disposition testamentaire. Si quelqu'un disait avant sa mort, mon fils suivant n'aura aucune part dans ma succession, ou s'il désigne un étranger comme son héritier à la place de ses héritiers légaux, sa déclaration est nulle, car cela va à l'encontre de la prescription de la Bible. Il est cependant possible pour un homme de déshériter les héritiers légaux, soit en préférant un héritier légal à un autre, soit en léguant la totalité de sa succession à un étranger sous la forme d'un don. B. B. 130A. 133B. Mais une telle action de la part d'un père est à considérer avec défaveur par les rabbins. Kid. 53. Nalo. 6. 11. Osen Mishpa. 282. Voir Leg. Volonté. Les héritiers entrent en leur possession dès le décès du défunt. Si tous les héritiers sont majeurs, le partage des biens peut être effectué immédiatement. Si, toutefois, il y a des mineurs parmi les héritiers, le tribunal nomme un fiduciaire pour les mineurs avant que la division n'ait lieu. Si, après le partage, apparaît un nouvel héritier dont les autres ignoraient l'existence, ou si un créancier du défunt perçoit une créance de la part de l'un des héritiers, une redivision de l'ensemble des biens doit avoir lieu. B. B. 106B. Nalo. X. 1. Osen Mishpa. 175. 3-4. Avant le partage, tous les héritiers sont considérés comme des associés de la succession, et s'ils vivent tous ensemble, chacun peut dépenser pour sa personne en fonction de ses besoins, sauf dans le cas d'une dépense extraordinaire, comme une dépense encourue par le mariage, qui est faire compter contre lui au partage. Lorsqu'il y a des majeurs et des mineurs parmi les héritiers, et que les majeurs ont amélioré la propriété par leur labeur, ils partagent tous de la même manière l'amélioration. Mais si les majeurs disent avant d'entrer dans la succession, c'est-à-dire ce que notre père nous a laissé, faisant ainsi l'inventaire de la succession, en présence de la cour, toute amélioration qui est venue grâce à leurs efforts Néhémie leur appartient qu'à eux. B. B. 143B. Au moment du partage des biens, lors de l'évaluation de la succession, les vêtements qui ont été fournis aux héritiers de la succession paternelle sont également estimés, mais pas les vêtements portés par leurs femmes et leurs enfants, bien que ceux-ci puissent également avoir été fournis par le trésor commun. Les vêtements de vacances, même de leurs femmes et de leurs enfants, sont inclus dans l'évaluation. B. K. 11 à voir évaluation. Preuve de titre. Les héritiers dont le titre de propriété de l'héritage est douteux sont exclus en faveur de ceux qui peuvent produire certains témoignages de leur titre. Yeb. 38a. Si, toutefois, il y a deux groupes d'héritiers douteux et que les fainéhémis peuvent être déterminés, la propriété est divisée. B. B. 159b. Par exemple, un homme et le fils de sa fille ont été tués. Et on n'est mis ses pas, qui est mort en premier. Les héritiers directs de l'homme prétendent que son petit-fils est mort le premier et n'a donc pas hérité de son grand-père, mais leur a laissé les seuls héritiers légaux. Les héritiers du petit-fils affirment que le grand-père est mort en premier et que le petit-fils a hérité de lui, les laissant, en tant qu'héritier du petit-fils, seuls héritiers légaux de la succession de son grand-père. Dans un tel cas, les biens sont partagés entre les demandeurs. De nombreux cas similaires sont consignés dans le Talmud. Dans certains cas, la décision est en faveur du possesseur actuel. Dans d'autres, Comme dans l'affaire citée, la décision Esther que les biens soient répartis entre les différents demandeurs, Yeb. 37b. B. 157-159. La propriété d'un prosélyte, qui n'a pas laissé d'enfant, appartient au premier qui en prend possession, voire Efker. Les biens d'un criminel qui a été exécuté pour son crime n'émis sont pas détournés, mais appartiennent à ceux qui en auraient hérité de manière régulière, San. 48b. Si, cependant, son crime était celui de trahison, ses biens peuvent être confisqués, IB. Voir aussi Agnat. Famille et vie familiale. Paternité. Question 9. Il semble que l'attaque de guerre bactériologique que nous avons subie en 2020 et la tyrannie médicale subséquente imposée au peuple du monde soient oubliées par les gens. Que pensez-vous que le diable prépare pendant ce temps de silence? On nous a enseigné que la tyrannie du monde médical était censée entraîner la persécution. Alors qu'en pensez-vous? Au regard de la façon dont les choses marchent actuellement? Réponse numéro 9. Nous pouvons nous attendre à plus de la même chose chaque année à partir d'ici en voyant qu'il y a une fin de partie et nous avons été correctement avertis par le prophète confirmé de Dieu qu'il y aura une guerre bactériologique au temps de la fin. Donc, quiconque Esther assez stupide pour Néhémie pas prendre au sérieux les paroles du prophète confirmé de Dieu adressé à cet âge Néhémie cherche que des ennuis. Rappelez-vous, il y avait un processus d'endurcissement que Dieu a utilisé pour endurcir le cœur de Pharaon, et c'était une plaie puis un sursis, une autre plaie, puis un autre sursis, et encore une autre puis un sursis. Cela a duré 10 plaies avec un sursis après chacune. Je n'y vois donc pas venir un relâchement. Ce que je vois, c'est Esther une série de plaies puis de sursis, parce que ce chaud puis ce froid briseront complètement la volonté des gens et les amèneront dans la pleine servitude de l'Éden de Satan. On nous promet que Dieu leur enverra une puissance d'égarement en sorte qu'ils croiront le mensonge des démons. Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce processus d'endurcissement, cliquez simplement sur le lien ci-dessous. http://messagedoctrine.com/briancocurex/masterpius/masterpius2083%20th0process.htm. C'est Esther un sermon que j'ai prêché le 30 août 2006. Et, depuis 1997. Je mets en garde contre les fléaux du temps de la fin dans une série que j'ai prêchée à partir de l'épître aux Romains. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, juillet 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocurec@yahoo.com.